Pontac Radio, interview.
Bonjour Philippe Covovilliers.
Et bonjour Julien.
Il y a des histoires qui semblent improbables. La vôtre en fait partie, Philippe. Vous êtes arrivé en Béarn après avoir longtemps vécu à Bruxelles, avec dans vos bagages une passion pour la musique brésilienne. Quelques années plus tard, naissait Brésil en Béarn, un festival qui attire aujourd'hui un public fidèle dans plusieurs communes du territoire. Si pour commencer, Philippe, je vous demande de remonter au tout début, quel est le premier souvenir qui vous vient en tête et qui finalement a conduit à cette aventure ?
Le premier souvenir, c'est certainement celui de mon papa qui était à ses heures perdues pianiste de jazz et qui ramène des États-Unis le disque Getz et Gilberto. Et donc, moi, j'ai 11 ans et paf, il y a cette musique qui m'explose dans les oreilles. Et après, qui me fait arriver à jouer de la bossa en comprenant pas le portugais. Après, j'ai eu une phase où j'ai habité au Portugal qui m'a fait rencontrer des Brésiliens. À Bruxelles, je suis tombé dans le nid d'une communauté brésilienne qui m'a fait programmer des concerts beaucoup avec des Brésiliens à Bruxelles. Et puis, on est arrivé ici, en Béarn. Donc, j'y suis installé depuis 30 ans du côté de Morlas. Mon épouse est béarnaise. Et on a fait une première représentation sur la place royale à Pau en 2021. Et un des Brésiliens a dit oh, ça serait rigolo, tu pourrais faire un truc Brésil en Béarn, etc. Et puis bon, il faut pas me dire trop de trucs comme ça parce que voilà. Ça... Et donc l'année suivante, j'ai trouvé trois communes. Donc on a commencé en 2022. Et là, on en est à la 5e édition et ça grossit.
Et on va en parler de cette 5e édition, évidemment, Philippe, sur Pontac Radio. Avant Brésil en Béarn, il y a une association qui s'appelle Bossa Flor. Quand on visite le site Bossa Flor, on comprend vite que votre projet ne consiste pas simplement à organiser des concerts. Vous produisez des albums, vous accompagnez des artistes, vous publiez des ouvrages, vous créez des rencontres culturelles au sens large. En fait, la musique, j'ai l'impression que c'est plutôt un prétexte pour faire dialoguer les cultures. C'est quoi, au fond, Bossa Flor ?
Bossa Flor, c'est très très large parce qu'effectivement, il y a beaucoup de volets qui sont autour du partage. Moi, j'ai toujours, d'ailleurs, dans le métier que je faisais à Bruxelles et dans la musique, pour moi, le partage, l'art des rencontres est très très important. Faire se rencontrer des musiciens de différents horizons, les faire jouer ensemble, les faire se découvrir, avoir des idées sur des passages entre les cultures, donc par exemple, le passeur de la musique brésilienne. On va adapter des chansons brésiliennes en français ou même en Languedoc, parce que c'est ce qu'on fait effectivement dans le festival, mais aussi des chansons du répertoire français que les Brésiliens découvrent, vont arranger à leur sauce avec des harmonies assez complexes et hop, on revisite finalement des chansons anciennes avec quelque chose effectivement de différent, de nouveau.
Et finalement, c'est plutôt une aventure humaine plutôt qu'une simple association qui organise un festival.
Mais complètement. Humaine non seulement entre les musiciens, mais aussi avec le public parce que ça crée quelque chose de nouveau et les gens sont très très attentifs et surpris, émus. Et donc nous, on aime bien aussi, après les concerts, partager, discuter avec le public et ils viennent donc rencontrer les musiciens.
Et ça, c'est possible quand on n'est pas dans la démesure, là où certains festivals aujourd'hui cherchent cette démesure. Vous revendiquez, vous le dites à l'instant, exactement l'inverse, donc des concerts à taille humaine où les artistes rencontrent réellement le public. Philippe, pourquoi c'est si important de préserver pour vous cette proximité ?
Il y a un aspect de communauté, de revenir effectivement à des relations humaines profondes sur des partages de culture qui n'est pas possible dans des grandes salles. Et les musiciens, en fait, sont très sensibles aussi à ça. Et expliquer effectivement, même par exemple en milieu rural, on va avoir effectivement des possibilités d'interaction avec le public qui seront totalement différentes de celles qu'on pourrait avoir avec des salles de 3000 personnes. Bon, donc c'est effectivement ce choix qu'on fait. Alors il est évident que dans certains cas, il peut y avoir des têtes d'affiche qui pourraient venir. Peut-être on n'exclut pas ça, mais moi je préfère effectivement des jauges de entre 50 et 200 personnes, c'est très bien.
Et c'est un choix aussi risqué financièrement, parce qu'une salle de 3000 personnes qu'on remplit, ça rapporte plus d'argent aussi qu'une salle de 50 ou 200 personnes qu'on remplit.
Mais c'est un autre métier aussi. C'est un autre métier. Nous on est, alors effectivement, c'est plus compliqué au niveau financier, c'est plus dangereux. Mais le paradoxe, c'est que ça attire effectivement l'attention des pouvoirs publics, parce qu'on reçoit des subventions des communautés de communes, par exemple Nord-Est-Béarn, du Pays de Nail, des mairies et tout ça, qui sont sensibles effectivement à cette approche qui est beaucoup plus proche des gens. Donc c'est un autre choix. Et je dirais qu'au niveau rapport humain, richesse des rencontres, c'est complètement différent.
On parle de Brésil-en-Béarn 2026 qui se tient du 1er au 8 août dans plusieurs communes. On va dérouler tout à l'heure évidemment le programme. Cette année, Brésil-en-Béarn ne propose plus seulement des concerts. J'ai le flyer sous les yeux, films, expositions, conférences, rencontres avec les artistes. En fait, le festival devient un véritable rendez-vous culturel. Est-ce que c'était ça votre ambition depuis le début ?
Non, parce qu'en fait, c'est un petit peu, je dirais, pas une coïncidence. Le festival a grandi aussi parce qu'il y a eu des influences venant de Pierre Barou. Pierre Barou, qui était un grand acteur, auteur-compositeur. Bon, donc on connaît ses chansons, par exemple La bicyclette, Des ronds dans l'eau. Il avait joué dans le film de Claude Lelouch. Il avait ramené finalement la musique brésilienne dans le public français. Et c'est la rencontre avec son fils Benjamin Barou qui a créé une expo autour de ses papiers volants. Il a trouvé des papiers dans la maison de son père, incroyable, des textes inédits, qui a fait qu'on a eu cette idée de faire cette expo à Nail et de présenter un film qui s'appelle, c'est un documentaire Sarava qui a été tourné en 1969, où on voit les grandes têtes d'affiche de la musique brésilienne à 20 ans, quoi, discuter, rigoler autour d'une table, etc. Et donc on a eu envie de partager ça. Et donc c'est un petit peu, la coïncidence qui a fait qu'on a présenté ça. Mais on va voir si effectivement la graine prend bien,
germe,
bon, on continuera, parce qu'effectivement on a énormément d'images aussi à partager, et donc on verra un petit peu ce que le public va nous dire.
Et vous venez de nous parler de Pierre Barou, qui est donc une figure essentielle dans les échanges entre la France et le Brésil. Quelle place il aura dans la programmation, Pierre Barou, autour de cette 5e édition de Brésil-en-Béarn?
Alors Pierre Barou, moi j'étais très ami avec lui dans les cinq dernières années de sa vie. J'ai organisé des concerts avec lui. J'ai appris la façon dont il avait de d'interpréter des chansons brésiliennes avec ses propres mots, et aussi avec des interprétations en français, mais très très proches du texte, et de raconter des histoires. Donc pour moi le fait de non seulement chanter, interpréter des chansons brésiliennes, mais aussi raconter ce qu'il y a autour, raconter l'univers de la musique brésilienne et aussi des passeurs, parce qu'on ne parle pas simplement de la musique brésilienne, on parle aussi de ceux qui l'ont adoptée, comme Claude Nougaro, Henri Salvador, Jean Moustaki, il y en a beaucoup. Et donc on fait Pierre sera un petit peu le personnage central dans le répertoire. Il y aura au moins une des chansons qui sera interprétée par différents artistes. Je leur ai demandé, je leur ai dit, écoutez, voilà, il y a cette chanson-là qui est intéressante pour vous. Et il y aura un point culminant qui sera le dernier soir à Nail, où là, on va effectivement mettre en avant les musiques du film Sarava et des chansons de textes inédits de Pierre.
Philippe Quevauvillier, je rappelle que vous êtes le président de Bossa Flor Music, organisateur de Brésil-en-Béarn du 1er au 8 août. Dans quelques jours donc, Saint-Armou, Buros, Lagos, Orthès, Salice de Béarn et Nail, 6 communes du Béarn donc concernées. La programmation complète évidemment sur pontacradio.fr. On va parler aussi des coulisses, ce que les personnes et le public ne voient jamais. Le public, il voit les concerts, mais il ne voit pas les kilomètres, les appels, les repas, les bénévoles ou même les imprévu. À quoi ressemble une journée de Philippe Quevauvillier pendant le festival ?
C'est une usine à gaz, en fait. C'est une usine à gaz avec... Je me rends compte que c'est pas un métier, c'est 6 ou 7 métiers regroupés. Donc, effectivement, faut traiter de tout un tas d'aspects. Et heureusement, cette année particulièrement, je suis super heureux d'être associé avec des gens qui sont très motivés au niveau de communication. Un couple de Brésiliens, en particulier Victor Carbelotto et son épouse Camila, qui s'occupent de la communication sur les réseaux sociaux, mais bien évidemment les bénévoles. Je ne suis pas président, en fait. Je suis président du festival, directeur du festival, mais la présidente de Bossa Flor Music, c'est Sabine Elgen que vous voyez, c'est mon épouse. Donc voilà, je voulais le souligner. Et elle s'occupe de toute la partie catering, parce que on va être entre 20 et 30 musiciens qui vont être effectivement logés dans des dans différentes endroits autour de Saint-Armoux. Donc il faut les transporter, faut avoir réservé les salles, faut avoir tout calé. Hier, je me suis encore aperçu qu'il y avait des aspects techniques qui n'étaient pas encore résolus à Nye. Donc, tout ça fait effectivement des journées bien remplies.
Et il y a des artistes qui viennent du Brésil directement ?
Alors, pas cette année. L'an dernier, ça a été le cas. Cette année, les artistes brésiliens viennent du Nord. C'est presque des ch'tis. Il y en a d'ailleurs qui est appelé le ch'ti brésilien, parce que Roberto de Oliveira, parce qu'il a adapté des chansons des mineurs du Nord en samba.
D'accord.
Et eux, ils habitent Lille, et il y en a qui habitent Bruxelles et Gand. Donc, il y en a pas mal qui viennent de là. Mais il y a aussi les musiciens brésiliens locaux. Par exemple, les Miu Queiroz, son père, Carlinhos Queiroz, qui est un fantastique bassiste que j'ai découvert qu'il avait joué avec des grands de la musique brésilienne. Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose de local qui est magnifique.
Quel est le moment que chaque année vous attendez avec impatience dans ce festival Brésil en Béarn?
C'est quand ça démarre, en fait. Quand ça démarre, quand on voit, il y a cette excitation qui monte. Et on s'aperçoit que quand les musiciens arrivent, même ceux qui ne se connaissent pas, il y a immédiatement une étincelle qui se passe. Il y a quelque chose qui tourne autour d'un enthousiasme commun et en fait une envie aussi de partager. Donc il y a cet espoir-là, ça va arriver dans 10 jours, hop, moi j'attends ça. Oui.
Vous parliez tout à l'heure de Pierre Barou et vous le citez souvent d'ailleurs sur votre site internet, on retrouve pas mal de paroles de Pierre Barou et surtout cette phrase de Vinicius de Moraes, « La vie est l'art des rencontres ». Quelle est, à part celle avec Pierre Barou, la rencontre qui vous a particulièrement marqué au cours des 5 éditions, enfin des 4 premières éditions de Brésil en Béarn?
Alors bon, justement, bon, à part Pierre Barou, il y a eu des gens qui ont croisé ma route, qui sont justement, Pierre Barou appelait ça des rivières souterraines. C'est les relations humaines qu'on ne discerne pas, qui coulent sous nos pieds. Et c'est jamais des coïncidences, elles se croisent, se recroisent, elles grossissent ou elles se séparent. Donc c'est cet aspect-là, j'aime beaucoup la rivière souterraine. Et les rivières souterraines, il y en a une avec Didier Sustrac, par exemple. Didier Sustrac, que je devais inviter avec Pierre Barou à Bruxelles. Et Pierre Barou est décédé en décembre 2016. Donc on s'est vu en fait à Montmartre, mais on s'était jamais rencontrés. Et on s'est vu dans la foule et on s'est reconnus. Et donc ce sont effectivement... Des partages justement d'émotions autour effectivement de ces rencontres. Donc il y a Didier Sustrac, il y a Philippe Powell aussi qui sont, et après il y a tous les gens qui viennent, Aurélie Tisblad, Victor Garbellotto, Roberto de Oliveira, tous ces gens-là qui ont fait que moi je me suis exprimé dans mon champ aussi au niveau brésilien grâce à ces musiciens.
On vous parle de la 5e édition de Brésil en Béarn. On ne va pas détailler point par point toutes les dates et tous les rendez-vous parce qu'on en aurait pour 2 heures tant le programme est riche. Le programme, il est sur pontacradio.fr. Mais moi, j'imagine que certains auditeurs ont déjà envie de réserver leur concert ou même de suivre plusieurs rendez-vous dans ce festival entre Orthès, Nay, Thalys de Béarn, Buros, Lagos et Saint-Armoux. Comment concrètement on peut retrouver la billetterie, par exemple, Philippe Covillier?
Il y a une page Brésil en Béarn sur le site et tous les concerts sont déroulés. Donc, avec une description des concerts et un accès au site de réservation sur le site Elo Asso.
Avant de terminer, Philippe, une dernière question. Vous avez vécu déjà 4 éditions de Brésil en Béarn. Est-ce que vous vous souvenez du moment où vous vous êtes dit « cette fois, le festival existe vraiment » ?
Je crois que ça s'est fait à la 3e édition, quand j'ai été un petit peu dépassé par le nombre de personnes qui sont venues au dernier festival à Nye. Donc il y avait effectivement Philippe Poé qui était là, et on a eu 250 personnes, et là j'étais très très étonné, j'étais un petit peu dépassé, j'ai dit waouh, qu'est-ce qui se passe ici? Et je me suis aperçu qu'en fait ça avait décollé, parce qu'il y a des gens qui disent « ah oui, Brésil en Béarn, j'ai déjà vu... bon, on a mis le pic du Midi d'Osso, et au-dessus du pic du Midi d'Osso, il y a le Christ roi. Donc c'est comme le Corcovado, c'est Corco Osso, en fait, entre guillemets, avec, voilà, qui a été transformé. Et les gens commencent à connaître cette marque de fabrique qu'on espère développer dans des saisons musicales autour de rencontres artistiques, hein, donc franco-brésiliennes, et pourquoi pas avec la Languedoc.
Philippe Covillier, merci d'avoir été avec nous. On rappelle que Brésil en Béarn se déroule du 1er au 8 août dans plusieurs communes du territoire. Toutes les infos pratiques et la billetterie sont à retrouver sur le site du festival. Et puis pour prolonger l'ambiance, Pontac Radio passe elle aussi à l'heure brésilienne, puisque du 1er au 8 août inclus, chaque soir de 19h à 20h, vous retrouverez une heure de programmation musicale 100% spéciale Brésil en Béarn avec les artistes du festival, les grands classiques de la musique brésilienne et quelques belles découvertes. Et Philippe, on vous y retrouvera également.
Grand merci à Pontac Radio, grand merci Julien.